BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, bonjour à tous. Il est 9h30 pile. C'est le nouvel horaire des experts en direct sur BFM Business. Toujours tous les jours, bien sûr, mais de 9h30 à 10h30. Retenez bien ce nouvel horaire. Bonjour et bienvenue pour une heure de débat et de controverse. Pas moins de 4 ministres ont présenté hier une nouvelle stratégie, disent-ils, pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes dont le taux de chômage grimpe de manière inquiétante. Malheureusement, aucun moyen supplémentaire. Résultat, on a plutôt tendance à brasser du vent. Alors qu'en début d'année, le MEDEF, lui, avait proposé aux partenaires sociaux des mesures inspirées par ce qu'avait fait Matteo Renzi, notamment en Italie. Un assouplissement du CDI pour les NEETs, vous savez, ces jeunes sans emploi, sans diplôme, ni formation. Un SMIC jeune aussi pour ces non-qualifiés, en contrepartie d'une obligation de formation du côté des employeurs. Bref, du concret, mais quand on veut bouger les lignes, parfois on se prend des murs, comme celui de la CGT qui a vu dans ses mesures une, je cite, une déclaration de guerre contre les jeunes et les salariés. Alors comment traiter ce problème des jeunes et de l'emploi? Ce sera le premier débat aujourd'hui avec mes experts. Et puis on va beaucoup parler du président américain et des marchés financiers dans la suite de l'émission. Trump manipule-t-il les marchés financiers ou à contrario est-ce que ce ne sont pas les marchés qui dictent leur conduite à Donald Trump? Et puis l'administration Trump qui veut davantage s'endetter à court terme, quelles conséquences pour les marchés? Ce sera le troisième débat. Et enfin, les droits de douane. Trump temporise avec l'Europe. Il a donné jusqu'au 4 juillet à Ursula von der Leyen pour ratifier l'accord de Turnberry. Le 4 juillet, vous le savez, évidemment, fête nationale. On fêtera les 250 ans des États-Unis. C'est une date très spéciale à retenir. Alors même que la Cour suprême a de nouveau retoqué les droits de douane de 10% imposés par Donald Trump l'année dernière. Voilà pour le dernier sujet du jour. Il est 9h passé de 32 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business. On est parti pour une heure. C'est les experts. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Nathalie Janson. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël.
Professeur d'économie à Neoma Business School. Face à vous, Sylvie Cazenave-Perret. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Première participation dans les experts aujourd'hui. Vous présidez le groupe Poisson Packaging. On a une industrielle autour du plateau. Ravi de vous accueillir.
Merci.
Et Christian Parizeau. Bonjour Christian. Rebonjour. Qui était déjà là dans la matinale, économiste et conseiller auprès d'Aurel BCG. Alors, je le disais, le premier sujet, on l'avait déjà évoqué, mais beaucoup trop rapidement hier dans les experts. Je voudrais qu'on y passe un petit peu de temps ce matin. C'est l'emploi des jeunes. On sait qu'en France, nos deux gros problèmes sont le taux d'emploi des jeunes et des seniors, des plus de 60 ans. Si on augmentait ce taux d'emploi au niveau européen, on aurait réglé tous nos problèmes de finances publiques. C'est aussi simple que ça. Pour l'emploi des jeunes, Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, accompagné de trois autres ministres, a présenté hier un plan pour l'emploi des jeunes, dont l'ambition est d'améliorer ce fameux taux d'emploi pour les 15 à 24 ans de 5 points d'ici 2030. Allez Nathalie, je commence avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé des mesures? Il n'y a pas un rond, c'est très simple. Hein. On ne peut pas mettre un euro supplémentaire. Et oui, évidemment, on a 5% de déficit. Alors, que propose le gouvernement?
Écoutez, oui, effectivement, c'est d'essayer de faire en sorte que l'insertion des jeunes soit plus facile sur le marché du travail et notamment de pouvoir finalement rendre un peu plus flexible leur entrée. En fait, quand on regarde, par exemple, la France, c'est pas une bonne nouvelle, a toujours un taux de chômage des jeunes qui est élevé.
Et plus de 21%, hein, je rappelle qu'on est à 7,8%, si je dis pas de bêtises aujourd'hui. Alors, en France, on est à plus de 21%.
On est à plus de 20%.
Plus 5 points dernièrement. Hein.
Exactement. Et si, c'est intéressant de dire, parce que l'Espagne, en fait, qui est également à peu près au même niveau,
oui.
Mais elle est partie de beaucoup plus haut.
Voilà. On était à plus de 30%. Donc,
et on années. Voit bien qu'effectivement, pour pouvoir améliorer cette entrée des jeunes sur le marché du travail, bah, c'est pas mystérieux. Il a fallu qu'ils assouplissent, effectivement, qu'ils créent des contrats plus souples. Mais aussi, d'avoir eu un partenariat entreprise-école. C'est-à-dire effectivement faire en sorte que lorsque l'élève arrive sur le marché de l'emploi, il soit moins déconnecté entre guillemets.
Là, les mesures présentées par le gouvernement sur ce partenariat, ils en parlent, hein.
Oui, ils en parlent tout à fait. Oui.
C'est uniquement par le biais de la sécurité, parce que il y a quelques jours, malheureusement, un événement dramatique. Un apprenti est décédé sur un chantier, effectivement, après un accident. Voilà. Mais dans le rapport entreprise école, on aurait pu imaginer des idées un peu plus larges.
Mais c'est vrai que le problème de la France, on le sait depuis, enfin, je veux dire, c'est quand même des problèmes structurels récurrents qu'on a depuis longtemps. C'est qu'en fait, on a un problème d'école depuis, voilà. On a un problème d'école. Le modèle, c'est toujours le modèle allemand, parce qu'effectivement, dans le modèle allemand, on a une valorisation de la filière d'insertion professionnelle. Donc, on a des jeunes qui ont un rapport avec les entreprises qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus décontracté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème pour un jeune de se décider à aller dans l'entreprise jeune, alors qu'en France, vous savez très bien qu'avec cette idée qu'il fallait avoir 85% de bacheliers, on a effectivement introduit, enfin, on a aggravé notre situation. Donc, on sait qu'on a aujourd'hui des jeunes qui font des bacs qui ne servent pas à grand-chose parce qu'après, ils vont continuer des études qui ne vont pas les insérer. Et donc, il faut, en fait, faut réformer l'école en même temps que le marché du travail.
Oui,
en fait,
et l'orientation, c'est la mauvaise nouvelle. Des filières, hein.
Exactement.
C'est le fameux insert score plébiscité. Alors, on va faire la communication autour de l'insert score, c'est-à-dire quelle filière embauche, avec quel niveau de...
Oui, alors effectivement, ils favorisent le matching, ils favorisent la circulation de l'information. Mais quand vous êtes aujourd'hui, enfin, pour être beaucoup, souvent dans les commissions de parents d'élèves pour des recours, vous voyez bien que la mentalité en France des familles en général, c'est qu'un enfant, il doit faire le général, sinon il a raté quelque chose. Et donc, tant qu'effectivement, on n'aura pas mis un terme à cette illusion qu'en fait, des études générales mènent à quelque chose, je pense que ça, c'est ce qu'ils font. On ne va pas dire que ce n'est pas bien, mais ce sera sans doute pas suffisant, malheureusement.
Je vais avoir l'avis de la chef d'entreprise, hein, Sylvie Cazenave-Perret, mais juste avant, Christian Parizeau, vous avez jeté un coup d'œil aux mesures annoncées par le gouvernement.
Oui,
qu'en pensez-vous?
C'est ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que c'est ça. Le gros problème, c'est qu'en France, on ne peut pas parler des jeunes parce que ça s'inscrit dans une vision plus large. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas de solution. Bah oui, on n'a pas de solution pour les jeunes. Pourquoi ? Parce que d'une part, en amont, il faut réformer complètement notre système d'éducation. Et c'est un vrai problème aujourd'hui de niveau d'éducation, de notre système qui soit adapté aux besoins de l'entreprise.
On a un ministre de l'Éducation nationale, je vous coupe Christian une seconde quand même, qui vient d'annoncer au Figaro cette semaine que le bac, si on ne savait plus écrire le français, on ne l'avait plus, il n'y avait plus la moyenne, et que sur les mathématiques, il fallait falloir se renforcer terriblement. Édouard Geffray est quand même assez intéressant comme ministre de l'Éducation nationale.
Oui, je pense qu'il a au moins une raison de dire qu'il faut sanctionner un niveau et pas dire qu'il faut 85% qui réussissent.
Et demander un minimum d'exigence.
Il faut avoir un certain niveau, sinon le diplôme vaut rien. Mais je dirais qu'il y a l'aspect formation, mais on n'en parle pas aussi, il y a aussi toute la formation professionnelle. Pourquoi aujourd'hui, vous avez des jeunes qui veulent aller jusqu'à Bac plus 5? Parce qu'on leur a dit que de toute façon, si tu n'atteins pas Bac plus 5, derrière, dans l'entreprise, tu seras bloqué. Tu ne peux pas rentrer à un bas niveau dans l'entreprise, avoir une formation professionnelle et finir cadre. Non, tu seras fermé, tu seras bloqué. Donc, il y a aussi quelque chose aussi que les entreprises, il faut qu'elles prennent en compte. Les jeunes, leur vie ne se fait pas à 20 ans. Ils ont toute une carrière professionnelle. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, on nous parle qu'on fera plusieurs métiers dans la vie et tout ça. Donc, est-ce que notre formation initiale, est-ce que d'avoir Bac plus 5 à l'origine, ça veut dire qu'on sera adapté dans le monde de demain?
Tout au long de la vie,
non.
Oui, qui change de plus en plus vite.
Je pense qu'il faut aussi faire un peu de nettoyage dans les entreprises pour dire qu'il faut aussi permettre aux gens d'avoir des carrières et d'évoluer dans leur carrière. Donc, vous voyez que les jeunes, c'est un peu ce qui est au milieu, mais ça, il y a en amont et en aval. Et tant qu'on ne gérera pas tout l'ensemble, finalement, on est dans un système qui marche mal en ce moment.
On a l'avis des deux économistes, là, Sylvie Cazenave-Perret. Comment ça se passe très concrètement, in situ,
alors,
dans votre entreprise, je rappelle,
Poisson Packaging. Sur ce qui a été exposé hier, je trouve que ça va dans la bonne voie. Depuis que j'exerce à la présidence du groupe Poisson Packaging, ce que j'observe, c'est que les choses quand même s'améliorent, même si le résultat n'est pas tout à fait là.
Oui, un message d'optimisme.
Oui, parce que nous, concrètement, depuis des années, nous travaillons avec les collèges, les lycées. On ouvre nos portes régulièrement. Les entreprises du bassin d'emploi dans lequel je me situe ouvrent leurs portes pour communiquer sur nos métiers.
Est-ce que l'institution école est prête à vous écouter,
bien
à vous accueillir
bien sûr,
avec
on a des professeurs, on a des dirigeants d'établissements qui sont beaucoup plus motivés qu'il y a une dizaine d'années, ça n'a plus rien à voir, qui ont pris la conscience et la compréhension de ce qui existait pour leurs jeunes, qu'il leur fallait un futur. Et puis nous, de notre côté, on met en place des dispositifs. Par exemple, on a créé des petites maisons pour héberger nos alternants, parce que le problème de l'emploi des jeunes, c'est aussi le problème du déplacement.
Et comment ils se déplacent ? Le logement, crise
majeure. Alors, dans les grandes villes, ça va, il y a peut-être des transports en commun, mais nous, dans nos provinces, on ne peut pas dire on réindustrialise la France en plaçant de Paris ou de Nantes ou d'Angers. C'est forcément dans les campagnes, et on n'a pas de transport en commun, c'est normal, mais ce n'est pas non plus un drame. Donc, particulièrement chez nous, et c'est pas, je veux pas pousser cette proposition, mais quand même, on a institué une sorte de leasing social, et le salarié, pour 2 euros par jour, il a sa voiture assurée, entretenue, kilométrage, et il peut venir à l'usine. Et ça, ça aide les jeunes, ça attire les jeunes. C'est une mesure
génial,
qui attire
j'adore.
Les jeunes.
Pardon, vous oui, avez pardon. Organisé votre oui. propre leasing social, voilà, on est sans que l'État s'en mêle, sans que...
Exactement, on n'a pas attendu que l'État, et je pense que globalement les entreprises font leurs efforts pour pouvoir non seulement recruter des compétences, mais aussi les garder, les fidéliser, les faire progresser aussi. C'est ce qui fait notre appétence, c'est ce qui fait qu'on reste et ce qu'on aime avant tout, que le jeune soit ou pas formé. Depuis très longtemps, les entreprises ont pris le relais de l'éducation nationale, parfois aidées par les professeurs ou pas, pour intégrer ces jeunes dans des plans d'amélioration continue, de formation continue, qui sont très importants chez nous, qui sont très bien suivis, qui sont aussi suivis par les inspections du travail, c'est normal, par les directions du travail, mais ce sont des moyens, des vecteurs de progrès, d'intégration, et on a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont aujourd'hui managers dans notre entreprise.
Alors, des gens sans diplôme, je voulais qu'on s'arrête une minute sur les mesures qui ont été présentées par le MEDEF en début d'année, sur les NEETS notamment. Je rappelle, les NEETS, c'est un acronyme anglais, mais ce sont les jeunes qui sont sortis du système scolaire, souvent très jeunes, sans diplôme, sans formation, et qui sont sans emploi. Très compliqué à réinsérer dans le monde du travail. Vous nous dites ce matin, Sylvie Cazenave-Perré, que vous avez des jeunes sans formation, sans diplôme, qui ont fini manager. C'est que donc, c'est possible. Le MEDEF s'était inspiré des mesures de Matteo Renzi, mis il y a 10-15 ans en arrière en Italie. Pour faire simple, un CDI assoupli avec des droits rechargeables pendant 3 ans, on peut licencier le jeune si on voit que ça ne matche pas au sein de l'entreprise, en contrepartie d'une formation continue, comme vous le faites chez Poisson Packaging. Et puis par ailleurs aussi, peut-être voir un SMIC un peu en baisse pour ces jeunes sans formation, sans diplôme, en contrepartie d'une formation dans l'entreprise. La CGT est montée au plafond en disant au scandale. Mais si ça se fait ailleurs, est-ce que ce n'est pas des mesures très concrètes qu'on devrait reprendre, Nathalie Janson ?
Alors, voilà, je vais être désagréable. En fait, ce qu'il faudrait, c'est surtout...
Vous n'êtes jamais désagréable, Nathalie.
Voilà, il faut enlever, il faut supprimer le SMIC tout court, déjà. Il faut assouplir le marché du travail, parce que de toute façon, chaque jeune, on voit bien dans le cas qui vient d'être discuté, les entreprises, elles ont un intérêt. Enfin, je veux dire, forcément, elles ont besoin de main-d'œuvre qu'elles puissent intégrer, qui correspondent à leurs compétences, et ça, elles savent faire. Donc, il faut surtout les laisser et les laisser aussi contracter un salaire avec un jeune. Alors, pourquoi pas effectivement avoir... Enfin, déjà, flexibiliser les contrats, c'est une voie qu'il faut prendre assez rapidement. Et d'ailleurs, l'Espagne, c'est pareil, dans ces mesures qu'elle a prises, c'est aussi un CDI plus souple, parce qu'effectivement, on a besoin de souplesse quand c'est un jeune. D'ailleurs, des deux côté, parce que ça peut être aussi le jeune qui en fait
qui
n'a
peut
pas
avoir
envie de continuer,
de bouger
parce que
aussi,
on est toujours en train de regarder du côté de celui qui emploie, mais les deux parties, c'est-à-dire que quelqu'un qui est employé, je dirais malgré lui, c'est-à-dire que qu'il a l'impression qu'il faut qu'il reste parce que sinon il n'aura pas autre chose, bah c'est pas une bonne recrue et c'est ni bien pour lui ni bien pour l'entreprise. Donc il faut surtout assouplir les conditions du marché du travail qui effectivement en France sont quand même particulièrement rigides et malheureusement là-dessus, bah il y a pas grand-chose qui est dit. Et effectivement avoir un SMIC jeune, c'est comme avoir un SMIC vieux. Enfin c'est pas une bonne idée en économie, c'est pas une bonne idée d'avoir différents prix, que les prix soient différents, soit.
Donc vous libéralisez totalement, voilà, aucune norme, nulle part.
Et on enlève le SMIC qui, en fait, n'a pas lieu d'être.
Est-ce qu'il vous empêche d'embaucher le niveau du SMIC, Sylvie Cazenave-Perret, ces jeunes sans diplôme, sans formation?
Alors, est-ce qu'il empêche d'embaucher? D'abord, si on a les marchés, voilà, si on a les commandes, on embauche. Ouais. D'abord, c'est la première condition de l'embauche. Ensuite, c'est vrai que le SMIC et tous les dispositifs qui sont associés autour du SMIC deviennent d'une complexification telle que
allègement de charges, prime d'activité.
Non, mais en entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On calcule un coût de revient. Dans le coût de revient, il y a de la main-d'œuvre. Donc, tous les dispositifs qui sont autour, qui vont venir compenser le coût de la main-d'œuvre, nécessitent une mobilisation du RH telle qu'on essaie, on n'essaie pas, mais en tout cas, on ne le rentre pas dans notre prix de revient. Ouais. Donc, ça ne nous rend pas plus compétitifs. Donc, je vais suivre l'opinion qui vient d'être développée par Nathalie tout de suite, je me permets.
Oui, oui, je vous en prie.
Parce que, en fait, ce dont on a besoin, c'est de la souplesse. Je ne suis pas du tout, moi, alors je ne suis pas pro-CGT, etc. Vous imaginez bien, en général, les patrons ne sont pas trop pro-syndicats. Néanmoins, je trouve que créer encore une catégorie spécifique de contrat de travail pour une catégorie de la population qui, si par malheur le jeune qui a été sorti du marché pour une raison X ou Y, il arrive un an trop tard, il ne peut pas en bénéficier. Mais nous, ça nous complexifie notre quotidien. C'est incroyable de toujours créer des règles nouvelles. Ce dont on a besoin, c'est de stabilité. Oui. Pour employer sereinement.
Donc vous estimez que dans le cadre actuel, vous pouvez faire de l'embauche par intérim, par CDD, par différents contrats
exactement.
Aussi,
on
vous
le fait déjà.
Donc finalement, pas besoin de rajouter de couches supplémentaires.
Christian Parizeau. Il y a l'apprentissage. Je rappelle, ça marche. On a vu que quand on met l'État, alors certes, certains vont nous dire il y a de l'aubaine. Oui, bon, bah, même s'il y a 2-3 emplois qui sont liés à l'aubaine, faut en général, l'apprentissage a marché et on voit que ça marche très bien. Alors certes, on peut dire que est-ce que c'est bien de faire l'apprentissage quand on est bac plus 2, bac plus 5?
Alors bac plus 3 à bac plus 5, effectivement, ça a coûté 10 milliards. On peut s'interroger sur le coût budgétaire de la mesure.
Là, on nous parle d'une mesure pour aider les jeunes. On veut recréer un nouveau contrat, alors qu'il y a des choses qui existent, qui sont en place, qui sont financées. Donc, je m'interroge, est-ce que finalement, on a vu que ça a très bien marché en tout cas.
Bon, encore une fois, ces mesures, c'est pour les NEETS, c'est-à-dire pour des jeunes qui sont complètement en dehors du système.
Oui, mais dans ce cas-là, il suffit de mettre des structures où on leur donne des formations qui permettent l'apprentissage. Oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est de les attirer. On essaye de les avoir à Pôle emploi, on leur fait une proposition, on vous dit pendant 2 ans, vous allez travailler, mais vous ne serez pas dans le cadre scolaire, parce que le gros problème de ces gens-là, en général, c'est plutôt un problème de rejet du format scolaire. Oui. Donc on leur dit, vous allez rentrer en entreprise, donc vous êtes en apprentissage, excusez-moi, qu'est-ce qu'on appelle, vous aurez quand même une formation théorique, parce qu'on ne peut pas demander à ces jeunes de travailler en entreprise s'ils n'ont pas un minimum de formation théorique. Oui. Donc, voilà, ça s'appelle l'apprentissage, excusez-moi, mais je ne vois pas ce qu'on va inventer de plus.
Si je peux me permettre, seulement les jeunes, mais leurs familles, les professeurs, les directeurs d'établissement. C'est vraiment quelque chose qui se passe au plan local. C'est une mobilisation locale des partenaires locaux qui travaillent ensemble pour faire découvrir les entreprises là où elles sont. Après, les jeunes, ils vont recevoir une formation, ils vont partir où ils veulent, mais au moins qu'ils aient cette formation et cette appétence pour le monde du travail.
Mais qui coordonne au niveau local travail entre l'éducation nationale
et les
chefs d'entreprise?
Depuis plus de 30 ans, on travaille en association avec tous les acteurs du territoire.
Et en fait, ce que vous décrivez, c'est le système allemand, en fait, tout simplement. Parce que c'est ça, le système allemand, c'est des entreprises qui travaillent effectivement avec la filière d'apprentissage. Et en fait, ils ont un devoir de formation, entre guillemets. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Après, on n'est pas obligé de suivre un modèle, mais nous, on a quand même un sérieux problème de rigidité. En plus, on sait très bien que les entreprises aujourd'hui font face à des conditions économiques qui changent très souvent. On a beaucoup plus de volatilité qu'avant. Donc, vous doutez bien qu'une entreprise qui se retrouve avec des rigidités dans la manière dont elle emploie les jeunes en plus, c'est vraiment forcément ça va tomber, la rigidité va impacter la partie de la population qui est la plus compliquée à gérer.
Donc c'est ça qui est
vraiment incroyable, enfin qui est incroyable dans le mot au sens étymologique, c'est-à-dire pourquoi on n'arrive pas, les gouvernements n'arrivent pas à comprendre que rigidifier des prix, des procédures, en fait, empêche en fait l'adaptation de l'entreprise. Donc, sans vouloir tout, enfin, plus rien contrôler, il faut bien qu'ils comprennent que c'est quand même un élément bloquant et que ça complexifie quand même le travail de l'entreprise fortement. Et donc, c'est au préjudice de ces populations jeunes.
Bon. L'avenir est dans l'entreprise. Hein. C'est ce que je retiens quand même quand le public n'est plus capable de gérer certains problèmes. Ben je vois que les entreprises prennent les choses en main quand même.
Elles le faisaient avant. Avant, on se rappelle. Enfin, moi, j'ai une famille qui vient d'un endroit où il y avait une industrie papetière. Mes grands-parents habitaient dans les maisons.
Le paternalisme du 19e siècle en Écosse.
Je suis pas en train de dire que c'est. Mais
des
on voit bien que les entreprises, quand elles ont un problème, elles trouvent des solutions. C'est pareil quand la Silicon Valley avec les problèmes de logement. Ils avaient des systèmes de ramassage des gens pour les faire, pour les acheminer. Enfin, l'entreprise, elle a besoin de résoudre des problèmes.
Ah oui.
Elle va pas attendre.
Bon, merci pour ce message optimiste. En tout cas, on peut faire des choses au travers de l'entreprise. Allez, on va passer à une grande séquence maintenant. Trump marché. On va en parler grosso modo jusqu'à la fin de l'émission. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est Trump manipule-t-il les marchés ? On a l'impression d'une gestion parfois, je vais y aller directement, quasi mafieuse, des intérêts d'un petit clan qui, en faisant fluctuer les marchés au gré des déclarations du président américain, s'en mettent parfois plein les poches. Des marchés financiers qui ont évidemment réagi là, il y a 24-48 heures, à la perspective d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. Là, on voit que depuis cette nuit, ils se retirent dessus, donc ça va bouger dans le sens inverse. La réalité, Christian Parizeau, grand spécialiste des marchés. On n'a aucune idée de ce qui se passe, des discussions en cours. Est-ce qu'on ne vit pas une méga opération de manipulation des marchés ?
Alors, je vais vous répondre, oui, il manipule les marchés, mais peut-être pas comme on le pense. Dans le sens qu'il est tellement instable, il est tellement incertain, qu'aujourd'hui, vous avez des opérateurs de marché qui ne peuvent pas prendre une position. Alors, je vais vous faire l'extrême, ils ne peuvent pas... Est-ce que vous êtes prêt à jouer aujourd'hui une forte baisse de la bourse américaine ? Je mets un peu de côté la thématique de l'IA et tout ça.
Il y a la tech quand même
juste,
qui tient tout
sur
ça.
Sur la thématique Moyen-Orient, parce qu'on pourrait prendre des valeurs qui sont sensibles à ça. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à mettre plusieurs millions pour jouer la baisse ? Pourquoi ? Parce que vous dites, si je commence à faire ce pari et que Trump va dans les plateaux et dit « tout est fini, on a un accord », je vais avoir ma position qui va se retourner.
Oui.
À l'inverse, la situation est tellement grave, le détroit d'Hormuz est bloqué, on se dit que ça va pas se résoudre du jour au lendemain, vous pourriez dire « je suis super baissier, je peux jouer une baisse ». Mais personne n'ose jouer cette baisse parce qu'on se dit « on peut se reprendre un coup derrière ». Mais ça joue aussi sur l'économie. Je vous prends juste un petit exemple. On a Baker Hughes qui nous donne, c'est un équipementier pétrolier américain, qui nous donne le nombre de puits qui sont ouverts et fermés aux États-Unis. Et on s'aperçoit que les pétroliers américains, malgré la forte hausse des cours du pétrole, n'ouvrent pas plus de puits. Aujourd'hui, ils sont bloqués. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, si demain Trump nous dit que la guerre est finie, le pétrole va pas rester à ce niveau-là et on va perdre de l'argent. Donc ils disent, autant produire ce qu'on produit, on produit pas plus, on le vendra plus cher, mais n'ouvrons pas nos puits, parce que Trump nous donne aucune visibilité.
Donc, vous êtes en train de me dire que c'est une forme de stabilité, les déclarations, puisque ça part dans tous les sens. On ne bouge pas, quoi.
Que personne ne bouge. C'est ça.
D'autant plus qu'il faut bien garder à l'esprit que le marché du pétrole était plutôt en surplus.
Oui.
Donc vous imaginez
bien. On était à 60 dollars, on a oublié, mais au mois de janvier.
Donc en fait, eux, ils savent que dès que c'est fini, ça, même si ça prend du temps, donc eux, ils n'ont aucune incitation à rouvrir des. Enfin, je veux dire, l'incitation à rouvrir des prix, elle est faible. Et c'est la même chose du côté du gaz de schiste. Donc effectivement, on ne peut jouer. Enfin, pour le moment, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais à part une hausse, on peut pas avoir d'autres choses qui vont se passer, puisqu'effectivement, rationnellement, vous allez pas vous lancer à ouvrir un puits, c'est pour le fermer deux mois plus tard, c'est pas possible.
Bon, tout ça est quand même très compliqué.
En attendant,
comment on pilote une entreprise industrielle dans ce contexte très mouvant ?
Comment on fait de la même manière, on s'organise peut-être, comme vous avez souligné tout à l'heure à l'allemande, nous, on a intégré une SCOP, on achète notre énergie via cette SCOP qui réunit beaucoup d'acteurs. Ça nous a permis de figer nos prix d'achat d'énergie parce que, in fine, quelle que soit la taille de l'entreprise, on doit payer la facture. La facture, elle n'est pas reportable chez le client tout de suite, c'est pas possible. Donc ça passe par des coûts très importants sur notre trésorerie et des à-coûts sur notre trésorerie, surtout dans des industries énergivores. Nous, on est un peu énergivores, c'est le moins qu'on puisse dire. Et par ailleurs, on a mis en place des systèmes d'énergie non fossiles, des panneaux solaires.
Est-ce que ça pousse à l'électrification on le voit sur le marché du véhicule électrique qui est en plein boom depuis le début de l'année.
Alors, ça pousse en partie à l'électrification, ça pousse surtout à la recherche de nouvelles technologies, avec des experts dans ces nouvelles technologies, notamment de batteries. Vous voyez, hier, on était avec des experts sur... Il y a un an, ce n'était pas vraiment possible de stocker cette énergie solaire. Aujourd'hui, ça le devient. Donc évidemment, il y a des technologies qui se développent très rapidement et les entreprises sont toujours plus agiles et flexibles que les États. Et comme vous dites très bien, si on est libre d'avancer, si le cadre réglementaire ne change pas toutes les 5 minutes, eh bien, on fait des investissements. Alors, ça pose d'autres problèmes parce que cette énergie, on va la produire, mais peut-être qu'on va pas pouvoir, on va l'utiliser, mais peut-être pas la remettre sur le réseau à un prix suffisamment pour amortir nos installations. Mais ça passe aussi par la coordination de moyens. C'est pour ça qu'on a intégré une SCOP pour déployer tout ce dispositif, pour pouvoir bénéficier de coûts d'investissement très affaiblis. Par exemple, on implante 1000 panneaux solaires. Les budgets d'origine qu'on avait réunis étaient autour d'1 million d'euros. C'est à peu près ça. Parce que c'est pas en toiture, c'est sur le sol. Enfin bref, c'est un peu compliqué chez nous. Eh bien là, on est arrivé à un budget global du tiers en investissement. Donc les entreprises, elles vont faire ça.
Voilà, l'efficacité de l'euro dépensé.
Les conditions, de leur performance économique pour pouvoir survivre dans un monde incertain.
Mais pardon, Sylvie, dans le monde incertain que vous soulignez, est-ce que vous avez envie d'investir? Est-ce que vous êtes en capacité certainement? Est-ce qu'on investit quand on a la dissolution depuis 18 mois qui met un bazar politique sans nom dans le pays et la géopolitique qui rend notamment le coût de l'énergie de plus en plus prohibitif?
Alors, comme vous pouvez observer, je suis pas un chef d'entreprise de tout nouveau. Ça fait longtemps. Donc, j'ai l'expérience, j'ai vu un nombre de crises incroyables.
Ouais, on vit un peu dans une permacrise depuis 2008,
voilà. C'est vrai. Oui, et puis même auparavant, la globalisation, les délocalisations. Oui. Je disais tout à l'heure à une personne que j'ai rencontrée que 100% de mes clients ont disparu. Parce que, et dans l'emballage, ça paraît incroyable. Bon, donc, on est habitué à ça, et donc, on doit s'adapter. Nous, on ne retient pas les investissements. Par contre, on gère le financement des investissements. Parce qu'une entreprise, ce sont des flux de trésorerie. Oui. Quand on voit l'attitude du président Trump, il me fait penser à un dirigeant qui finance du long terme par du court terme.
Ah ben, on va en parler justement dans la seconde partie de l'émission. Mais
donc,
c'est un peu ça.
Voilà, nous on réagit pour pérenniser notre activité industrielle.
On va en parler dans la seconde partie de l'émission. Hein. Restez avec nous, on revient dans une petite minute. On se disait, est-ce que Trump manipule les marchés? Est-ce que les marchés ne manipulent pas aussi un petit peu Trump? On voit que dès que les taux longs touchent les 5%, Trump a tendance à reculer. C'est le fameux taco. L'administration Trump qui cherche aussi à financer de plus en plus à court terme sa dette, les T-bills plutôt que les T-bonds. On verra ensemble ce que ça peut avoir comme conséquence sur les marchés. Et puis on reviendra sur les dernières déclarations du président américain dans la guerre commerciale qui l'oppose à l'Union européenne. Et puis la décision de la Cour suprême aussi qui vient de condamner les tarifs de Donald Trump. Voilà pour le programme de la suite. On revient tout de suite. Ne quittez pas.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Alors, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h pile. Retenez bien ce nouvel horaire. C'est 9h30, 10h30 désormais tous les jours sur BFM Business. Les experts aujourd'hui, Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School, Sylvie Cazenave-Perret, présidente du groupe Poisson Packaging, et Christian Parizeau, économiste et conseiller auprès d'Aurel BCG. Christian, Je reprends avec vous, on parlait juste avant la coupure de Donald Trump qui pourrait manipuler les marchés avec ses déclarations tonitruantes qui partent d'un côté et de l'autre. C'est pas toujours facile à suivre. Mais, est-ce que ce ne sont pas aussi les marchés financiers qui parfois dictent sa conduite à Donald Trump? On l'a revu cette semaine, hein. Dès que les taux longs touchent les 5%, Trump always chickens out. Il recule, il a arrêté, il a stoppé son opération Liberty dans le détroit d'Ormuz. On avait vu la même chose, hein, de mémoire, corrigez-moi si je me trompe, mais sur la guerre commerciale, sur les tarifs, au mois d'avril l'année dernière.
Le 9 avril.
Donc, est-ce qu'il ne réagit pas aussi au marché obligataire, Donald Trump ?
Oui, il semble qu'il est plus sensible au marché obligataire qu'aux actions. Lors de son premier mandat, c'était plutôt le marché actions qui regardait. Maintenant, c'est le marché obligataire. Hein. Alors, pourquoi ? Parce que la dette américaine est énorme. Il ne faut pas l'oublier. Oui. On a un problème de déficit, mais eux aussi, ils ont un gros problème de déficit. Bon, c'est les États-Unis, mais quand même, ils ont un problème de financement. Et c'est là où on voit que l'administration américaine est quand même un peu sous pression. Et ça, il faut bien mettre ça dans le cadre aussi de toute sa pression qui met sur l'indépendance de la Banque Centrale Américaine. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bessent, qui est le secrétaire au Trésor américain, a dans l'idée de plus en plus que les États-Unis se financent à court terme. Alors, pourquoi se financer à court terme ? Il y a un aspect purement technique. Lorsque vous émettez des T-bills, hein, donc des titres de court terme, voilà, vous les émettez...
C'est les titres de trésorerie, c'est quoi ?
Trois mois, six mois, un an. Oui. Vous émettez à, par exemple, 99 et vous allez rembourser à 100. Mais vous ne versez pas d'intérêt. Donc, comptablement, vous n'avez pas versé d'intérêt sur
la
dette.
Il y a la grande différence avec
les bonds. Par contre, vous augmentez votre endettement. Hein.
Eh oui.
Parce que quand vous allez refinancer, parce qu'à 100, bah pour rembourser, vous allez réemprunter. Donc, vous allez réemprunter à 99, vous allez rembourser à 100, et ainsi de suite. Donc, le ratio dette sur PIB augmente, mais comptablement, vous n'avez pas versé d'intérêt. Donc, ça leur permet déjà de ne pas verser d'intérêt, et Trump ne veut pas verser d'intérêt aux non-résidents. Parce qu'ils considèrent que voilà, c'est donner de l'argent à d'autres personnes. Donc ça les rassure. Ça intervient aussi à un moment où, sur la partie longue, ils ont énormément peur que les non-résidents ne financent plus la dette américaine. Parce que aujourd'hui, tout ce qui est le Golfe va avoir besoin de son épargne pour réinvestir. Une fois la guerre sera finie, ils vont plutôt remettre en route leur puits de pétrole que de financer la dette américaine. On a les Chinois qui se désengagent de cette dette. On a les Japonais qui agissent, c'est un peu compliqué, sur le yen, mais ils seront peut-être moins d'appétit pour la dette américaine. Et les Européens, peut-être qu'à un moment donné, ils vont comprendre aussi qu'il faut peut-être arrêter de financer la dette américaine. Donc, tout ça fait qu'ils ont vraiment l'intention de se financer à court terme. Mais ça pose problème, parce que quand vous avez 25% de votre dette, ça pourrait monter à plus de 25% de la dette qui est financée à court terme. Là, on est à tour des 22%. Hein.
Ah
donc,
oui, déjà.
Ça pourrait monter.
À titre de comparaison, vous avez pour la France, par exemple.
Alors, pour la France, j'ai pas en tête.
Il y a des différences culturelles.
Si vous avez 25% de votre dette qui est à court terme, vous êtes très dépendant des taux directeurs de la Banque Centrale Américaine.
Eh oui.
D'où cette pression de Trump pour qu'on baisse rapidement les taux. Ça lui facilitera. Je baisse les taux à court terme. Moi, je m'en moque du long terme. Même si ça fait ce qu'on appelle pontifier la courbe, même si les taux l'on monte, c'est pas son problème. Lui, il veut vraiment se financer à très court terme, pas cher. Et donc, quelque part...
Et donc, si je vous comprends, c'est plus de pouvoir pour Donald Trump
sur le côté financier. À court terme, plus la pression sur la Banque Centrale sera forte, plus l'indépendance de la Banque Centrale sera mise en cause. Donc, on voit que c'est un mécanisme qui est dangereux parce que, d'une part, s'il y a un choc inflationniste, si la Banque Centrale américaine doit intervenir, ça fait exploser les coûts de financement de l'État américain, faut pas l'oublier. Parce que, et puis surtout, derrière, faut quand même attirer. Donc, ils ont fait aussi des réglementations qui font que les banques ont intérêt à prendre de la dette américaine. On a fait notamment les stablecoins qui va créer une demande de dette court terme américaine. Donc, ils ont mis en place un ensemble de choses qui font qu'ils essayent de drainer la liquidité sur cette dette de court terme, mais c'est quand même un élément de financement à court terme. C'est quand même dangereux. Ça reste quand même un élément de financement un peu chaud.
Est-ce que vous considérez que c'est dangereux aussi, Nathalie Janson ?
Alors, bon, moi, je vais un petit peu tempérer quand même, même si je remets pas en cause ce qui est dit sur la stratégie, mais je vais tempérer, en fait, je vais remettre dans le contexte. En fait, les États-Unis ont toujours émis plus de dettes à court terme qu'en France, par exemple. Si on prend le cas français...
C'est culturel, donc.
C'est pas que culturel, c'est aussi une histoire de marché. Parce que, de toute façon, en Europe, les marchés monétaires sont quand même... ils sont arrivés beaucoup plus tard qu'aux États-Unis. Leur développement est quand même plus récent. Et on n'a pas cette...
On est beaucoup plus intéressant. intermédiaire en Europe.
Voilà, tout à fait.
Le ratio est totalement inverse entre les États-Unis pour le financement privé et l'Europe.
Oui, oui, tout à fait.
C'est 80-20 ou 70-30.
C'est 70-30. On dit qu'il y a 70% du financement des États-Unis qui se fait via les marchés, et nous, c'est via les banques. Donc, en réalité, effectivement, en France, comme dans beaucoup de pays européens, on a plutôt une tendance à financer plus long. La maturité moyenne en France est au-delà de 8 ans. Elle a même été beaucoup plus élevée quand on a eu des taux négatifs à long terme, puisque beaucoup d'États, et on n'était pas les seuls, on faisait tous pareil, on s'endettait à très long terme. C'est vrai qu'aux États-Unis, on n'a pas cette même tradition. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a une tradition d'endettement à court terme qui a toujours été là, mais effectivement, elle était plutôt autour de
4 ans. Elle roule sur combien, la dette américaine, si c'est 8 ans?
Elle est plutôt à 6 ans. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est effectivement, on a une remontée de la partie courte, donc qui atteint, comme Christian vient de le dire, plutôt 25%, qui va vers ses 25%, elle est à 22. Et on a aussi une remontée de la partie très longue. Donc en fait, c'est ces deux-là qui remontent. Et il faut bien voir que, effectivement, aux États-Unis, on a eu plutôt une tradition d'éponger les déficits, c'est-à-dire le rajout de dépenses comme il y a en ce moment avec la guerre, en émettant de la dette courte. Pourquoi effectivement aux États-Unis c'est aussi plus facile? C'est parce qu'en fait c'est tout simplement plus facile parce que le marché,
c'est la profondeur des marchés aussi,
est énorme, que on a toujours dit qu'il était, on dit as good as money, que c'est un substitut de la monnaie quasiment direct, que aujourd'hui il est utilisé en collatéralisation de plein d'opérations, c'est-à-dire que quand on veut emprunter, on n'emprunte pas sur son nom mais on met du petit bills et du coup on nous prête de l'argent. Donc en fait le fait, il y a beaucoup de mécanismes différents qui font qu'aujourd'hui il est très facile pour les Américains d'augmenter en fait cette partie T-bills. Nous, ce serait moins le cas parce que déjà, on n'a pas un marché européen du T-bills.
Oui, on n'a pas le marché européen de l'épargne, évidemment, unifié.
On n'a pas cette profondeur du marché monétaire. Donc, en effet, aux États-Unis, il y a une appétence pour le court terme qu'on a rarement vu de toute façon, en France en tout cas. Il n'y a jamais eu de grande appétence du financement du déficit public par des taux courts, même si aujourd'hui, on voit quand même que le Trésor français va plutôt sur le court, parce que ça coûte quand même moins cher, puisque forcément, les taux longs sont plus élevés que les taux courts. Ouais. Donc même, de façon générale, il y a quand même une stratégie des gouvernements pour aller plus sur le court, parce que l'ensemble des taux
ont augmenté. Y compris en Europe, y compris en France, que vous
exactement.
Nous dites.
Exactement, mais effectivement, c'est pas une stratégie, je ne conteste pas ce qu'a dit Christian en termes de dynamique, c'est-à-dire qu'on a une dynamique plus volontaire aux États-Unis de dette à court terme, mais aussi parce que chez eux, c'est plus facile quand même à placer que chez nous.
Est-ce que c'est dangereux? GHK qui réagit sur mon compte Twitter, n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions, des réactions, @legenrat, qui nous dit que s'endetter à court terme est très inflationniste et généralement pratique dans des pays émergents comme la Turquie.
Oui, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner, je me suis dit que c'était peut-être pas, j'avais pas le mentionné tout de suite, mais c'est vrai que dans les pays effectivement où il y a de l'inflation, par exemple l'Italie, elle était connue pour effectivement s'endetter à court terme avant l'euro, quand elle avait à gérer l'inflation. Et ça effectivement, ça existe. Mais là, on est en train de parler des États-Unis, et ce que je viens d'expliquer, c'est que les États-Unis ont un avantage majeur par rapport à la plupart des autres pays sur le court terme, c'est que cette dette est demandée sur le marché financier comme collatéral. Donc, si vous voulez, comme on a besoin de collatéral pour aller emprunter, forcément, ils ont un avantage naturel. Et même si ça peut être dangereux, c'est beaucoup moins dangereux que si la France ou l'Allemagne se mettaient à emprunter à court terme.
Non, après, c'est pas un danger dans le sens qu'on prêtera toujours aux États-Unis et j'ai pas de problème là-dessus.
C'est le taux.
Le gros problème, c'est qu'ils sont hypersensibles au taux d'intérêt et connaissant l'administration Trump, c'est que très clairement, ça va peser sur l'indépendance de la Banque Centrale Américaine indirectement. C'est un des éléments, c'est pas le seul. Je le reconnais, mais c'est vrai que pour la Banque Centrale Américaine, elle sait que si elle relève ses taux, tout de suite, ça a un impact budgétaire beaucoup plus important. Et derrière, il y aura une pression du Trésor. Et quand on voit que M. Walsh veut de plus en plus déléguer des fonctions de la Banque Centrale Américaine vers le Trésor américain, il y a vraiment un
problème
d'indépendance pour la Banque Centrale.
Alors qu'il était le candidat qui rassurait le plus les marchés, Kevin Walsh.
Non, mais il rassure les marchés parce qu'il est sur court terme, il a une volonté de baisser les taux, ça fait plaisir à tout le monde qu'on baisse les taux. Ok, mais sur pas mal d'éléments, je pense que le marché va s'apercevoir qu'il n'est pas si favorable que ça, et notamment sur sa volonté de réduire la taille du bilan de la Banque centrale.
Il va y avoir des mauvaises surprises.
S'il peut le faire, s'il annonce le fait de réduire la taille du bilan, il sera aussi une source de volatilité parce qu'il a dit que la Banque centrale va beaucoup moins communiquer, beaucoup moins guider sur ce qu'elle va faire à l'avenir. Donc ça veut dire que dès qu'il va parler, il va être beaucoup plus source de volatilité sur les marchés. Et là, on va s'apercevoir que finalement, peut-être le discours continu de la Banque centrale, éviter des réactions de taux longs. Là, maintenant, si vous parlez plus que deux fois par an et que vous sortez vos prévisions et vous dites je vais faire ça deux fois par an, je peux vous dire ce jour-là, faut pas être absent. Faut pas être absent sur les marchés parce que ça risque de bouger pas mal. Donc, voilà, je pense qu'on en reviendra, mais on en reparlera, mais je pense que ce qu'il propose n'est pas forcément si positif que ça à terme.
Bon, à surveiller, quand est-ce qu'il prend le poste? C'est fin mai, hein?
Alors, normalement, le mandat de M. Powell finit le 15 mai.
Le 15 mai.
Et
15 mai.
On doit avoir une session plénière du Sénat pour valider et après, il devra prendre la fonction, donc ça sera autour du 15.
Bon, on a un calendrier à peu près similaire à celui de la France avec Emmanuel Moulin qui doit lui aussi passer des auditions devant le Parlement avant d'arriver au mois de juin. Sylvie Cazenave-Perret.
En tout cas, du point de vue des entreprises, et je pense qu'on peut retranscrire ça même très modestement en termes d'analyse de la confiance qui est faite à une économie. Quand on a confiance dans une économie, on peut financer à long terme. Oui. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Quand on n'a pas confiance, on finance à court terme. Donc, c'est ça.
C'est signe de quelque chose, c'est ça que vous nous dites.
Qui est le principal au niveau de ce qui se passe sur l'économie américaine et qui impacte nos propres économies. Parce que quand il n'y a pas la confiance de long terme, il n'y a pas d'investissement de long terme. Donc, c'est toute l'économie mondiale qui se ralentit et c'est exactement ce qu'on observe. On a dit tout à l'heure la Turquie qui se finançait à court terme, les pays émergents à une certaine époque qui se finançaient à court terme parce qu'il y avait ce déficit de confiance. Et c'est normal, on ne va pas prêter si on n'a pas de vision, si on n'a pas de visibilité. Et ce qui m'inquiète sur l'attitude des États-Unis, c'est que le président Trump, en actionnant ce système de court terme, soit il a un plan, soit il n'en a pas. Et moi,
c'est la grande question depuis.
Il n'en a pas du tout.
Bientôt 10 ans avec Donald Trump.
La stratégie n'est pas là. Elle est par rebond et ça ne crée pas la confiance.
En même temps, la croissance est là-bas. Oui. Les entreprises regardent là-bas pour les rendements. Et
Je pense que malgré tout, les États-Unis ont...
La rentabilité du côté des États-Unis.
Exactement. Ont pour eux la rentabilité, l'augmentation de la productivité. Donc même s'ils ont des tensions sur les prix, ça sera moins grave que chez nous. Parce qu'ils ont des vrais gains de productivité. Il faut bien s'imaginer que même effectivement dans ce paysage compliqué, les États-Unis ayant un moteur quand même plus puissant, en tout cas, et plus tourné vers l'avenir, eh bien, ils sont dans une situation relativement meilleure que nous. Et donc, après, on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais en effet, finalement, ce sera peut-être nous qui aurons plus de difficultés à nous adapter qu'eux.
Mais quand même, croissance plus forte, mais au prix d'une politique budgétaire très expansionniste.
Beaucoup d'endettement.
Donc on est dans un cycle haussier et en plus on en remet en plus du charbon pour aller plus vite. Oui. Donc il y a quand même cet élément-là et on sent que quand même il y a un problème de redistribution qui quand même va être un frein économique à mon avis à terme sur la croissance américaine parce qu'aujourd'hui on est quand même sur une minorité d'Américains qui vraiment en profitent de cette croissance
en cas.
Et ça c'est pas un gage de stabilité sociale, bon d'une part, mais économiquement aussi. Hein, on le voit. Les entreprises.
Mais ça crée pas tant de tensions que ça politique aux États-Unis. Ça, c'est ça
oui,
qui est fou.
Mais je pense que ça va commencer à arriver parce que je dirais que c'est un peu la thématique inflation cache beaucoup de tensions finalement de différences et ça va s'accentuer parce que vous allez avoir quand même pas mal d'Américains qui vont être exclus du système de santé. Avec la réforme qu'on a fait au niveau de l'assurance santé, qui va faire que beaucoup d'Américains vont perdre leur couverture santé. Et là, ça va faire aussi un choc, à mon avis, dans l'opinion. Donc, on a des simulations et on voit que soit vous avez un coût de l'assurance santé qui va exploser, soit vous allez abandonner toute assurance santé. Donc là, on va avoir des effets, à mon avis, qui vont être un peu plus importants. Donc, attention. Il y a quand même des faiblesses. Alors, je ne dis pas que
dans un pays très abîmé par le
fait il y a une force de l'économie américaine. On est d'accord sur l'innovation, sur le fait qu'ils soient indépendants énergétiquement, qu'ils payent pas cher leur gaz par rapport à l'Europe, qui va payer durablement cher son gaz. Donc, il y a quand même des vrais avantages compétitifs au niveau industriel. Mais il y a aussi un gros problème de formation. Faut pas l'oublier. Hein. Regardez les investissements. investissements.
Nous ne sommes pas les seuls.
Dans les semi-conducteurs qui doivent être réalisés aux États-Unis sont retardés parce qu'ils n'arrivent pas à recruter le personnel qualifié. Donc il y a un vrai problème de formation aux États-Unis et il y a un vrai problème de répartition des richesses qui va peser sur la croissance à mon avis à terme. Donc attention, il y a aussi des faiblesses.
Bon, et vous parliez d'inflation. L'inflation, c'est aussi la guerre commerciale et la hausse des tarifs douaniers qui... Alors, on n'a pas tant vu que ça, finalement, depuis un an. On va faire le bilan un peu ensemble d'un an de guerre commerciale par Donald Trump. Le président américain qui a vu ses tarifs douaniers mondiaux de 10% invalidés par la Cour suprême, c'était hier. On va en discuter ensemble, le président américain qui a aussi eu Ursula von der Leyen au téléphone hier pour lui donner finalement un délai parce que ça devait arriver plus tôt jusqu'au 4 juillet, fête nationale américaine. C'est les 250 ans de la création des États-Unis cette année, une date très importante, très politique pour Donald Trump. Il a donné aux Européens jusqu'au 4 juillet pour ratifier l'accord commercial signé en Écosse l'été dernier. Passé ce délai, les droits de douane bondiront à des niveaux beaucoup plus élevés, menace Donald Trump comme à son habitude. Pourquoi ça traîne comme ça, Nathalie Janson, côté européen, pour ratifier l'accord de Tenenbaum?
Bon, avec l'Europe, c'est toujours quand même un mystère, les raisons pour lesquelles ça traîne. On est toujours partagé entre le fait que finalement, ils n'ont pas envie de répondre et le fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, effectivement, je ne suis pas dans le secret de Polichinelle, donc je ne sais pas lequel des deux est vrai. Mais effectivement, il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a sans doute un peu des deux. En tout cas, c'est sans doute pas facile parce que on n'a pas les mêmes vues sur le commerce de façon générale. Donc, ça ne facilite pas en fait les discussions et les avancées très certainement.
Oui, il y a les questions de ratification aussi par tous les pays, il y a tout le process européen, la lourdeur
de toute façon,
mais
par définition
européenne.
Je pense aussi que les Européens ne sont pas pressés d'accorder parce que rappelez-vous la situation au 1er janvier. La situation au 1er janvier, on avait un accord commercial qui nous garantissait des droits de douane à 15%, alors que tous les autres pays, beaucoup concurrents de l'Europe, avaient des droits de douane beaucoup plus élevés. Donc l'Europe s'en sortait pas trop mal dans cet accord. Aujourd'hui, le problème, c'est que les droits de douane de la Chine, qui étaient à 33%, ils viennent de tomber ils sont tombés déjà fin janvier. Et oui. Là, on a une deuxième sanction parce qu'il y avait un minimum de 10, mais qui vient de sauter. Donc, du coup, on se retrouve que l'Europe, si on a notre accord commercial et que Donald Trump ne peut pas remonter son accord, ses droits de douane, parce qu'il n'a pas la faille juridique qu'il va trouver pour remonter ses droits de douane sur les autres pays, on va se retrouver pénalisé, nous. Nous, on aura 15, alors que la Chine aura peut-être moins. Donc, on n'est peut-être pas pressé. Il ne faut peut-être pas courir là-dessus. L'autre élément, naturellement, c'est que Trump va se retrouver sur une impasse quelque part au fur et à mesure parce que il a tordu le droit américain comme il le fait toujours, mais il se dit l'exécutif c'est tout de suite, la Cour suprême elle met 3 mois à décider derrière si c'est valide ou pas. Donc moi j'ai
puis penser avoir la Cour suprême à sa botte. On et voit quand pensez, même voilà. C'est la deuxième décision qui va à l'encontre de sa politique.
Il se prend, donc du coup il va devoir mettre des droits de douane, mais ça va être des droits de douane qui vont être justifiés, qui sont une procédure beaucoup plus longue et ce seront des droits de douane sectoriels. C'est pour ça qu'il a réattaqué l'Europe en disant je vais mettre des droits de douane sur l'automobile. Oui. Il n'a pas dit je vais mettre des droits de douane sur l'ensemble des produits européens, mais seulement sur l'automobile, parce que maintenant, il va être beaucoup plus limité dans son action en mettant des droits de douane très ciblés. Donc, dans ce cas-là, l'Europe, est-ce qu'on a intérêt à signer un accord commercial large sur tous les produits, alors qu'il pourra seulement nous sanctionner que sectoriellement, et il nous met déjà des droits de douane très élevés sur l'acier et l'aluminium. Alors, est-ce qu'on va juste pour l'automobile accepter des droits de douane pour tous les autres produits? Donc, il y a un vrai débat, mais juste qu'il faut retenir, une nouvelle fois, on rentre dans l'incertitude. Imaginez aujourd'hui, vous êtes une entreprise américaine, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez tout de suite aux Chinois ou vous attendez fin juillet qu'on y voit plus clair ou que Trump rencontre la semaine prochaine Xi Jinping et qu'ils se mettent d'accord et qu'ils se serrent la main? Quel droit de douane je vais avoir? Parce que imaginez un distributeur, on parle pas de petits montants là. On parle, est-ce que je vais avoir un droit de douane à 33, à 10 ou à 0? Et donc derrière, moi si j'achète trop tôt et que mon concurrent l'a pas fait, je vais pas être concurrentiel. Donc vous voyez pourquoi on a des à-coups très forts aujourd'hui sur toute l'amélioration du déficit commercial américain. Il est pas là déjà, il est pas là en termes de déficit. Et tout ce qu'on a vu, c'est les à-coups qu'on a eu sur les importations et exportations vis-à-vis de la Chine, par exemple, qui sont liés à ces phénomènes de droits de douane. Et les Américains se dépêchent de constituer leurs stocks pour après les écouler. Donc, vous voyez, c'est un frein énorme sur l'activité.
Sylvie Cazeneuve-Perret.
Même lorsqu'on entend parler des droits de douane, on simplifie en fait à l'extrême. On dit c'est les droits de douane de temps sur la France. Nos collègues américains avec qui nous travaillons dans le cadre d'un groupement mondial dans lequel notre entreprise représente notre pays, la France, nous expliquer ce qui se passe réellement sur des droits de douane d'une machine importée, par exemple, d'Allemagne,
oui,
aux États-Unis. Eh bien, en fait, toutes les parties de la machine qui sont sourcées en Asie, dans quelques pays que ce oui. soit, en Italie parfois, oui. en France parfois, doivent être imposées aux droits de douane d'origine.
Local.
Donc, les droits de douane,
c'est-à-dire nous, la complexification
terrible, d'autant qu'aujourd'hui, ils ont été refusés. Donc, les entreprises qui les ont subies sont habilitées à les réclamer.
Oui.
Et donc, pour se voir restituer ces sommes qu'ils ont perdues. Donc, si vous voulez, c'est une complexification énorme aussi pour les entreprises américaines et l'industrie américaine. Et ça, on le voit pas trop parce que, évidemment, nous, on s'occupe de notre cas. Et nous, notre cas, c'est simple, on bouge plus. C'est-à-dire qu'on attend, oui. on attend les décisions pour vérifier que les gesticulations du président Trump sont entérinées ou pas. On ne va pas se paniquer. Et en ce sens, l'Europe, dont on condamne beaucoup l'immobilisme, en fait, fait preuve d'une certaine force d'inertie. Et dans sa force d'inertie, c'est aussi une force. C'est-à-dire que finalement, ne pas décider, ne pas réagir, ça agace beaucoup le président Trump, mais en même temps, ça permet d'y voir clair. Tout cela ralentit l'économie, ça c'est la conséquence, puisqu'on ne peut pas prendre de décision dans un univers aussi, aussi incertain. Ça, c'est la conclusion que je pourrais donner sur cet épisode.
Nathalie, juste pour préciser juste un petit point, ce qui est important, c'est que quand vous importez aux États-Unis, vous payez tout de suite, vous évaluez oui. vous-même, l'entreprise mmh. évalue son oui. droit de douane, mmh. et ensuite, l'administration américaine vous revient en disant,
oui.
vous avez bien évalué ou pas.
C'est fou.
Et donc, ça veut dire que tous ceux qui importent aujourd'hui, ils payent tout de suite le droit de douane. Ouais. Et s'il est supprimé, c'est à vous d'aller réclamer à l'administration américaine en disant, j'ai payé ça, j'avais évalué ça, mais depuis, ça a changé, donc remboursez-moi. Et donc, faut passer au tribunal. Donc, vous voyez la complexité pour vous faire rembourser.
Oui, les coûts.
Donc, c'est vrai que vous êtes une entreprise américaine, il y a une décision dans 3 mois, vous vous dites, je ne vais pas importer ma machine si je n'en ai pas besoin, je ne vais pas l'importer maintenant, je vais attendre qu'il y ait une décision, comme ça, j'évaluerai mes droits de douane, parce que sinon, il va falloir que j'aille au procès, que j'aille à cour, demander remboursement de l'administration et tout ça, vous voyez. Donc ça explique pourquoi il y a ce blocage qui est très, très
important. Non, mais ça devrait, si je vous écoute, tout devrait être gelé, il devrait y avoir plus aucun échange entre les deux, c'est catastrophique.
Ça explique en grande partie les à-coups qu'on a eu sur le commerce chinois, parce qu'ils ont constitué certaines entreprises ont plus d'un an de stock.
Oui, parce qu'elles sont, effectivement, elles se sont adaptées.
Nathalie Janson, quel bilan vous tirez-vous de un an de guerre commerciale?
Non, mais moi, je trouve, on a annoncé, y compris sur ce plateau, il y a un an, après le Liberation Day, que ça allait être catastrophique, l'effondrement de la croissance. On a tous eu très peur, quand même, quand il a sorti son tableau, qui ne voulait rien dire avec les différents chiffres qu'on a essayé de décrypter. Et puis, finalement, un an plus tard, on a vu que le commerce international a progressé en 2025, et plutôt très sensiblement.
Oui, en fait, c'est ça, c'était la bonne nouvelle. Effectivement, il y a eu plusieurs rapports dans ce sens-là. Il y avait celui aussi de DHL Express qui allait dans ce sens. La croissance du commerce mondial continue. Et effectivement, elle est moins dynamique qu'elle l'était il y a quelques années, mais effectivement, elle progresse à peu près de la croissance mondiale, un petit peu supérieure, si je me rappelle bien. Et elle prend, en effet, des structures, la globalisation se fait différemment.
Oui, ça a changé. Il y a des voies, ça prend des voies différentes.
Et on voit
en Asie,
à nouveau,
sur le continent américain.
Exactement. Et en fait, on voit à nouveau que les entreprises, elles prennent acte des problèmes d'incertitude. Et après, elles vont essayer de trouver sans doute des nouvelles voies qui leur créent moins d'incertitude. Donc, exactement. Trump, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est pas le maître du monde. Il va pas, il est pas là. Il va pas empêcher les entreprises de réagir à ses politiques. Et puis, si un jour, effectivement, les entreprises ont moins envie de commercer avec les États-Unis, tant pis pour lui. Et je dirais, pour son avantage, faut aussi rappeler que les États-Unis ne sont pas très dépendants, en fait, du commerce mondial. Parce que le commerce mondial par rapport au marché américain, c'est un peu plus de 10% au niveau de l'ouverture.
Eh oui.
Voilà, c'est pas le Danemark ou la Norvège ou des petits pays qui effectivement sont très ouverts sur le commerce mondial. Donc effectivement, il a beaucoup perturbé, mais après tout, finalement, dans la vie de tous les jours, évidemment, ça perturbe. Voilà, les exemples qui ont été donnés, je vais pas aller les contester. Mais globalement, en fait, c'est finalement, ça ne change pas fondamentalement le fait que le marché est aujourd'hui mondialisé, que les entreprises raisonnent dans ces termes-là. Mais on va pas revenir à autrement, on va pas se fermer. Ça, c'est une bonne
La mondialisation n'est pas morte, Christian Parizeau.
Non, elle n'est pas morte. Alors, attention aussi, dans les commerces mondiaux, il y a un effet quand même échange de tout ce qui est autour de tout ce qui est tech. Tout
ça, service tech et logiciel, bien sûr.
Qui a beaucoup progressé dans beaucoup le tiré. Commerce physique, hein, et notamment, on le voit avec la Corée du Sud, ce qui se passe. Mais ça pénalise quand même certains Américains. Faut pas l'oublier parce que jusqu'à preuve du contraire, on produit très peu de vêtements aux États-Unis, par exemple. Oui. Et les Américains ont vu quand même que ça avait un coût de plus dépendre des Chinois et que ça avait vraiment un impact sur leur pouvoir d'achat. Donc ça génère quand même une inflation aux États-Unis. Mais là,
on calcule ça parce qu'elle a mis du temps à venir. Hein,
oui,
cette
mais
inflation,
c'est parce qu'on a fait tous une erreur et moi le premier, c'est-à-dire qu'on n'a pas raisonné par rapport au fait que. On attendait ces droits de douane, les entreprises se sont préparées et il y a eu énormément de stocks.
Au premier trimestre 2025.
Et ça fait que aujourd'hui vous avez l'effet droits de douane qui est sur l'inflation aux États-Unis. C'est pour ça qu'aux États-Unis vous avez une inflation qui est à 3, mais qui reste à 3 avant le choc. Donc, c'est ce qu'on appelle une inflation collante aux États-Unis résiliente. C'est le fait que ça n'a pas été brutal. Ils ont pas, tous les prix n'ont pas été répercutés immédiatement. C'est répercuté dans le temps au fur et à mesure que les stocks arrivent à la fin.
Et donc, ça veut dire qu'on va y venir là?
Mais ça ne va pas être un choc d'un seul coup. Ouais, c'est, contrairement à ce qu'on pensait, c'était pas un choc. Et puis, d'autre part, alors, a priori, il y a quand même beaucoup de fraude. Alors parce que tout simplement vous faites une simple règle de 3, vous faites le taux moyen officiel et ce que ça rapporte à l'administration américaine,
on n'y est pas du tout
en dessous. Donc il y a quand même,
ils attendaient 300 milliards
et ça c'est lié par exemple parce que c'est tellement complexe, il suffit que si vous apportez une statue en bronze vous êtes taxé, mais si c'est la matière première bronze vous n'êtes pas taxé. Donc il suffit de déclarer ça comme matière première bronze et puis voilà. Donc il y a ça et il y a le contournement via le Mexique et via le Canada qui explique aussi beaucoup qu'on a surestimé impact. Donc, on s'adapte. Légalement,
on s'adapte. Ce sera le mot de la fin de cette émission passionnante. Merci à tous les trois, Nathalie Janson, Sylvie Cazenave-Perry, Christian Parizeau, pour cette émission passionnante disponible en podcast replay. Tout de suite, c'est BFM Transmission animée par Sandra Gandoin. Quant à moi, je vous retrouve lundi, même heure, même endroit, le nouvel horaire, 9h30, 10h30 en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.